comment dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Dans un instant, dans VMDN, nous recevrons l'écrivain tunisien Hubert Haddad. Il publie un très très beau roman extrêmement poétique intitulé La sirène d'Isée. C'est aux éditions Zulma, un roman magnétique, envoûtant et lumineux, est-il écrit sur la quatrième de couverture. Pour tout vous dire, Hubert Haddad n'est pas très loin de RFI. Il est coincé dans les embouteillages. Il devrait être avec nous dans quelques minutes à peine. Alors, en l'attendant, on va faire une petite escale en Afrique, en Ouganda.
There is no easy road to freedom.
You're breaking me.
We must therefore act together.
Vous m'en direz des nouvelles.
For the birth of a new world.
Sur RFI.
Car aujourd'hui, comme vous le savez, se tient l'élection présidentielle en Ouganda. Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 34 ans, affronte un adversaire inhabituel, un chanteur de 38 ans, Bobby Wine, qui a su mobiliser la jeunesse. Reportage de l'envoyé spécial de VMDN à Kampala, Antoine Pecker.
À Mukono, à l'est de Kampala, la campagne électorale se fait en musique. Une camionnette sillonne la ville en diffusant les chansons de Bobby Wine. Le chanteur est le principal adversaire du président Yoweri Museveni. Parmi ses supporters, Babi, une jeune commerçante, et Edgy, qui vient de quitter l'université.
Is a youth like me. We are not involved in politics.
Il est jeune comme moi. Jusqu'à présent, nous n'étions pas impliqués dans la politique, mais Bobby Wine a tout changé.
Nous, jeune génération, nous avons besoin de travail. Nous voulons pouvoir être diplômés et ensuite trouver un emploi. C'est pour cela que je vote pour lui comme président de l'Ouganda. Il est mon espoir.
L'Ouganda est l'un des pays avec la population la plus jeune au monde. 80% des habitants ont moins de 30 ans. Une jeunesse qui n'a connu à la tête du pays que Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 34 ans, et qui doit faire face à des inégalités sociales et économiques de plus en plus fortes. À l'université de Makerere, l'une des plus prestigieuses d'Afrique de l'Est, les étudiants sont particulièrement mobilisés. Les chansons de Bobby Wine les ont politisées, à Tim, en master d'économie.
Il y a des étudiants qui trouvent parfois les discours ennuyeux. Mais par contre, si les messages passent par les chansons, ils sont motivés.
À l'instar du Burkinabé Smokey ou du Camerounais Valsero, Bobby Wine s'inscrit dans la lignée des chanteurs africains engagés. Mais lui va plus loin, déjà en devenant député en 2018 et maintenant en briguant la fonction suprême. Le jeune entrepreneur et professeur en marketing Patrick Bujingo observe une nette évolution à travers ses chansons.
Avant, on avait des situations où il avait des chansons et voilà, juste pour, et il a chanté de l'amour et ce qui se passait. Mais après, on a réalisé qu'il a changé les thèmes et il a changé la motivation de la musique. Et on a vu qu'il mettait des messages. Il a critiqué le gouvernement directement. Par exemple, s'il avait les hôpitaux ou les situations étaient complètement mal, il a mentionné ça dans les chansons.
Mais derrière les chansons, quel est le programme de Bobby Wine? Nous nous rendons au siège du parti, dans le quartier de Kamokia, au cœur de Kampala. Dans la cour, une immense fresque représente les visages des leaders africains de l'indépendance, comme Patrice Lumumba ou Thomas Sankara. Nous y retrouvons Joël Sagnoni, le porte-parole du parti. Il nous dit les premières mesures que son parti prendrait s'il remportait l'élection.
Tout d'abord, nous libérons les prisonniers politiques. Des gens ont été arrêtés juste parce qu'ils ne soutenaient pas Museveni. Mais l'opposition, notamment Bobby Wine, doivent être libres. Deuxièmement, nous remettrons la constitution en ordre en mettant une limite de durée au mandat du président. Cela nous permettra de ne pas avoir de nouveau un autre dictateur pour 35 ans. Et puis nous devons nous occuper de l'économie, elle ne fonctionne pas. Les taxes sont aujourd'hui appliquées n'importe comment.
La campagne électorale se fait dans un climat particulièrement violent. Des membres de l'opposition ont été tués, emprisonnés ou sont portés disparus. Sur le campus de Makerere, Atim nous fait part de ses craintes.
Vous ne savez pas qui sera le prochain. Votre père, votre mère, nous vivons dans la peur. Les enfants restent à la maison. Se déplacer est devenu très risqué.
L'armée s'est déployée dans Kampala. Est-ce pour prévenir une éventuelle rébellion lors de la proclamation des résultats? L'exemple du Soudan voisin, où la révolution de 2019 a conduit à la chute du dictateur Omar el-Béchir, est ici dans toutes les têtes. Une chose est sûre, les musiques de Bobby Wine n'ont pas fini de se faire entendre en Ouganda.
Un reportage signé Antoine Pecker pour VMDN. C'est un roman d'une poésie envoûtante qui réunit les spectres et les vivants entre le vert d'un jardin labyrinthique et le bleu d'un océan capricieux. Un conte de l'entre-deux-rives, entre terre et mer, entre rêve et réalité, entre musique et silence, entre folie et harmonie, entre les ténèbres de la mort et la lumière d'un éclair dans la nuit. Un récit battu par les vagues et parsemé d'embruns, peuplé d'étranges créatures qui nous emportent vers un horizon poétique et mélancolique, une symphonie du silence et de l'indicible qui éveille tous nos sens à la beauté du monde et aux profondeurs de l'âme. La sirène disait, le nouveau roman d'Hubert Haddad sort chez Ulma et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Hubert Haddad.
Bonjour.
Le premier décor de votre récit, c'est le domaine des Descenderies, qui est situé à la pointe sud de la baie d'Umwelt, en bord de falaise, juste au-dessus de l'océan. Et rien qu'en disant cela, on a déjà deux noms propres, les Descenderies et Umwelt, qui sont déjà deux portes d'entrée récit et dans l'imaginaire. On va revenir sur Umwelt tout à l'heure, on va commencer par ce mot Descenderie. Alors je suis allé voir dans le dictionnaire, j'ai découvert qu'une Descenderie, c'est une galerie inclinée, qui relie deux niveaux différents dans une mine. C'est donc une pente qui nous permet de descendre. Et là, en l'occurrence, c'est une pente qui permet de descendre dans les tréfonds de l'esprit des hommes, ou plutôt des femmes, puisque ce domaine des Descenderies, c'est un ancien sanatorium qui a accueilli pendant des années des femmes atteintes d'hystérie et de troubles mentaux. Un établissement dirigé par un médecin qui s'appelle le docteur...
Antérieurement, c'était un sanatorium.
Voilà, tout simplement. Oui. Donc avec des gens qui venaient au bord de la mer prendre le bon air.
Et c'est l'architecture typique qu'on construisait à ce moment-là, avec de grandes baies vitrées face à la mer. Et ils venaient là pour en espérant survivre. Il n'y avait pas de la pénicilline encore.
Voilà, donc c'était l'air le plus pur possible.
Voilà, à la montagne
ou
à la mer.
Pour essayer de guérir, ou en tout cas d'alléger les souffrances des patients. Et donc, il est devenu un asile, ce sanatorium. Oui. Avec ce fameux médecin, donc le docteur Rivald. Alors, c'est un praticien assez étrange, Hubert Haddad. On se demande si... On se demande si entre ses patients et lui, c'est peut-être lui un peu le plus fou, non ?
C'est un aliéniste. Hein, il a ses idées sur la pratique de la médecine et notamment. Il pense que on peut sauver un schizophrène, on peut sortir un schizophrène, on peut sortir n'importe quel psychotique de son enfermement par des moyens assez brutaux.
Voilà, c'est un partisan de la manière forte, quoi. Provoquer un traumatisme, voilà. Faire en sorte que les patients frôlent la mort, ça peut être une porte vers la vie.
Voilà, et il pense que là, il peut y avoir une belle abréaction. Et alors, c'est un rêveur aussi. C'est un rêveur. Les Descenderies, donc c'est un très bel immeuble, un peu... Art nouveau, quoi, avec des grandes baies, des immenses, et qui donnent sur l'océan.
Alors c'est étonnant, justement. Donc vous disiez, c'est un sanatorium, donc on comprend qu'un sanatorium se soit installé à cet endroit-là.
Oui.
Mais qu'un tel endroit puisse accueillir des gens qui ont des problèmes mentaux, dans un endroit aussi proche de la mer, au sommet d'une falaise, enfin ça semble complètement fou, pour le coup.
Un peu étrange. Sauf que...
En plus, la falaise, elle s'érode quand même. Donc ça veut dire que petit à petit, la menace grandit.
La menace grandit. Mais justement, tout ça se conjugue un petit peu. Au fond, il y a une intrication entre les éléments et les désirs humains pour chacun. Umwelt, vous l'avez pas dit. Vous êtes allé chercher dans le dictionnaire pour Umwelt. C'est en éthologie. L'Umwelt, c'est l'environnement.
Voilà, l'environnement sensoriel.
L'environnement sensoriel.
Et donc évidemment, vous n'avez pas choisi ce mot-là au hasard pour définir votre endroit.
D'une certaine manière, c'est très étrange comme ça se passe. J'ai écrit des romans où il me fallait beaucoup, une grosse documentation. Par exemple, à Mont-Saint-Chaos, c'est le ghetto de Lodz, tout ce qui s'est passé en Pologne, il me fallait évidemment juste. Mais là, c'est un roman d'imaginaire pur. C'est-à-dire que rien ne me motivait à écrire ce livre, sauf que je me trouvais dans une situation entre deux livres que j'avais initiés et que finalement je n'ai pas encore écrit.
Entre deux, c'est intéressant parce qu'entre deux, c'est précisément le fil rouge que j'ai choisi de suivre pour rédiger cette introduction. Et c'est vrai qu'on est entre deux, on est entre la terre et la mer, on est vraiment entre plein d'éléments. On va en parler dans un instant, Hubert Adal. Je voudrais qu'on revienne justement sur notre falaise, sur notre promontoire, avec donc ce sanatorium devenu un endroit pour soigner les personnes.
Une maison de repos,
un asile. Et parmi les patientes de cet asile, eh bien certaines ont mal fini. On le disait, c'est très dangereux, un asile sur un promontoire, avec une falaise qui s'effrite.
Déjà avec le sanatorium, il y avait beaucoup de jeunes filles physiques et qui étaient attirés par le vide.
Par le vide, voilà. Et donc, notamment, il y a un personnage qui s'appelle Lilo dans le roman, qui a été hospitalisée. Mm-hmm. Elle aussi, elle arrive dans un état, on se demande vraiment de quoi elle souffre, hein. Elle est un peu apathique, un peu léthargique. On sait pas grand chose au fond de Lilo dans le roman, sauf les circonstances de la mort, justement.
Voilà. Et Lilo est très mystérieuse. On l'amène là parce que on sait pas où la mettre, quoi, d'une certaine manière. Et le docteur Ewald, il est tout de suite intéressé par cette jeune femme. C'est un cas très très intéressant. En plus, elle est belle, elle est innocente, on ne sait pas d'où. On croirait presque qu'elle vient de l'océan, du fond de l'océan, que elle a quelque chose à voir avec peut-être les sirènes. Et cette personne-là ne sait pas s'exprimer, ne sait pas parler, elle est là, et elle chantonne. Et Lilo, pourquoi Lilo? Parce que c'est les syllabes qu'elle répète le plus souvent. Alors, à la fin, tout le monde l'a appelé Lilo.
Opus 31 de Charles Valentin Alcan, interprété ici par Wolfgang Veller. Une pièce également intitulée Hubert Adal, la chanson de la folle au bord de mer, dont les échos se font entendre à travers vos chapitres. C'est presque une pièce de musique écrite pour Lilo.
Absolument, oui. C'est Lilo, lorsqu'elle chantonne, on peut imaginer que cette mélodie la traverse. Alcan était un disciple, un élève, un disciple de Chopin, ça s'entend bien.
Oui.
Et cet air, quand on l'a entendu une fois, il ne vous quitte plus.
Absolument.
Ça devient complètement obsessionnel, obsessif. Et ça, c'est un petit peu l'hymne de cette histoire.
Voilà, la folle.
La chanson de la folle du bord de mer.
Voilà, la folle au bord de mer. Et la mer, Hubert Haddad, je le disais, elle assaille, elle érode la falaise. Nous sommes à la page 47 de votre livre.
Lors de l'automne calamiteux qui suivit la disparition de Lilou, on put constater une sensible déstabilisation de la zone littorale, sans qu'il y eût encore de motif d'inquiétude. L'érosion du trait de côte, due à la nature du terrain et à l'impact d'une marée d'équinoxe à gros coefficient, passerait presque inaperçue, au même titre que la fonte des pôles ou l'activité sismique liée à la dérive des continents. Des éboulements locaux, parfois considérables, finissent par s'équilibrer sur le front de mer, lequel enregistre un recul à peu près uniforme d'un an à l'autre. Mais il arrive que l'interaction des phénomènes naturels produise une accélération inédite des effondrements sur une zone circonscrite. La vitesse d'érosion des falaises dépend de spécificités géologiques, telles qu'une alternance précaire de blocs de grès et de strates calcaires que des poussées argileuses plus profondes ont tout loisir de saper pendant des millénaires, en collusion avec le siège immuable des marées. Jusqu'au jour où d'énormes poches de matériaux meubles crèvent soudain les pontes et chutent en avalanche dans un vacarme amplifié de ressacs. La chose se produisit à l'endroit même où Lilou avait dû perdre pied, le dernier soir d'un mois de septembre, aussi ensoleillé qu'étincelant d'étoiles. Les années passant, l'instabilité évolutive de la falaise ne fit plus de doute. Par à-coup, sans jamais prévenir, il lui arrivait de reculer à l'allure d'un pas d'homme.
Et cet extrait le dit de façon assez explicite, Hubert Haddad, mais ce livre, c'est aussi un livre sur le rapport de l'homme à la nature, sur le rapport de l'homme aux éléments. Votre matériau dans ce livre, ce sont les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, ils sont omniprésents dans le texte, presque à chaque ligne. C'est vraiment impressionnant. Et ils sont omniprésents à la fois, enfin parfois comme source de bienfaits et de tranquillité, parfois comme force menaçante ou violente, parfois ils s'affrontent, parfois ils font alliance, mais toujours de manière féconde.
Oui.
Ce sont eux, finalement, la matrice de l'action.
Tout à fait, il y a un combat des dieux et des titanides, qu'on vit, nous, de manière fantasmatique dans nos rêves. Et il y a cette dimension qui est essentielle et qui est où trouver la sirène. Elle est là, elle est partout, et c'est l'inconnu, la sirène.
Mais alors la sirène, c'est une créature d'eau qui peut être aussi une créature de terre. Oui. C'est une créature assez éthérée, donc elle a aussi une dimension aérienne.
Bien entendu, il y a la sirène.
La sirène qu'on entend aussi, la sirène du bateau.
Du bateau, oui, elle est partout. Elle est dans cette mélodie d'Alcan qui est fascinante, elle est dans un certain nombre de présentes derrière un certain nombre de personnages qui vont apparaître, disparaître, et puis ensuite, tout va se conclure, mais je ne vais pas raconter.
Non, n'allons pas trop loin.
Dans une espèce d'extase sirénienne.
Oui, voilà, exactement. Il y a une sorte d'apothéose comme ça qui arrive à la fin du livre. Mais évidemment, on va laisser les auditeurs le lire et le découvrir. Mais bon, l'eau, la terre, le feu. L'air un petit peu moins, mais enfin d'abord évidemment on peut les visualiser. Et c'est vrai que vous avez une écriture extrêmement visuelle, Hubert Haddad. Est-ce que vous êtes un contemplatif ?
Un contemplatif, c'est sûrement. Je suis peintre aussi. Je suis peintre. Et je suis dans le regard. Je suis dans le regard et pourtant je me suis très souvent dans différents livres et nouvelles. Intéressé à ce qu'est-ce qui reste quand il manque la vue. J'ai écrit plusieurs livres avec des aveugles, sans dire que ce sont des aveugles, d'ailleurs. Le lecteur ne le sait pas, c'est vraiment la disparition de Pérec. Et aussi, là, on est en présence, et c'est probablement le personnage central du roman, avec un enfant qu'on voit, qu'on le suit de la naissance à son...
Voilà, c'est le fils de Lilo.
C'est le fils de Lilo.
Le fils de Lilo, il s'appelle Malgorn. Et Malgorn. Là aussi, parce que je sens que, encore une fois, vous n'avez pas pris les noms au hasard, loin de là. Je suis allé enquêter. Malgorn, c'est un nom qui est à une consonance germanique, un peu bretonne.
Bretonne aussi.
Plutôt bretonne, d'ailleurs, bretonne. Que germanique. Et Malgorn en breton, c'est le colimaçon, c'est l'escargot. Et ce nom lui va effectivement extrêmement bien. Il ne pouvait pas s'appeler autrement, votre personnage, Hubert Adal.
Mais ce qui est très mystérieux, et c'est que tout s'est passé. Je vous ai dit que ce roman, il est advenu sans préparation. Tout d'un coup, il fallait que j'écrive cette histoire. Et c'est a posteriori que j'ai découvert que les noms choisis qui sont venus comme ça parce que
vous avez pas fait une recherche pour appeler ce personnage en fonction de ses caractéristiques.
De même pour Mueld qui est le monde de chaque créature l'environnement de chacun évidemment l'environnement comme disait l'autre d'une chauve-souris et l'environnement d'une abeille ne perçoit pas le monde pareillement. Chez les humains aussi on perçoit pas le monde pareillement, donc il y a des univers croisés comme ça et avec un fond d'incompréhension, sauf quand la poésie traverse, quand on se retrouve avec Malgorn ou avec Perdre, qui est une jeune femme, une jeune fille, qui est là face à l'océan. Tout le monde est face à l'océan.
Voilà, on a presque l'impression que les deux personnages se regardent. Se voient-ils réellement ? Oui, ils se voient.
Ils
se voient. Mais bon, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est le rêve ? Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce que c'est le présent ? Est-ce que c'est le passé ?
Oui.
On n'en sait trop rien. Mais Malgorn, on n'a pas expliqué, Hubert Adal, pourquoi Malgorn s'appelle Malgorn ? Parce que Malgorn, comme l'escargot,
comme le labyrinthe.
Il est sourd.
Oui, il est sourd.
Il est sourd. Alors, il perçoit comme des vibrations sonores.
Le labyrinthe de l'oreille, il y a, vous savez.
Voilà.
Et évidemment, au cœur du roman, il y a... ce fameux labyrinthe.
Voilà, parce que c'est l'homme du labyrinthe, Malgorn. Voilà. C'est l'homme du labyrinthe de l'oreille sourd, et c'est l'homme qui est le silencière.
Le silencière.
Et là encore, c'est un mot que vous n'avez pas du tout choisi au hasard. Silencière au service du palais végétal de Riwald. Silencière, on pense évidemment au silence dans lequel le sourd est enfermé. Et en fait, dans la Rome antique, un silencière, c'était l'homme qui était chargé de maintenir le silence et l'ordre en présence de l'empereur.
Ouais.
Et donc, le palais végétal en question, c'est ce fameux labyrinthe, un labyrinthe végétal, un labyrinthe de jardin, imaginé par le médecin. C'est un outil thérapeutique.
Au départ, c'était à l'époque où les Descendries étaient un hôpital pour physique. Et bien, c'était on pensait que les épicéates, pouvaient guérir, pouvaient aider à guérir tous les résineux. Et donc, on mettait beaucoup de résineux autour de ces lieux-là, pensant que, comme l'air de la mer, comme l'iode, et à l'arrière donc des Descendries, il y a dans un très vaste enclos ces arbres, ces résineux. Et lorsque le psychiatre Riwald a repris ce lieu pour en faire un asile, eh bien il a tout d'un coup une révélation. Cette espèce de forêt restreinte, c'est une vraie jungle. Il y a toutes sortes de c'est, il s'est, il, tout de suite il a pensé en termes cliniques de faire de ce lieu un labyrinthe.
Et un labyrinthe, ça peut donc, croit-il en tout cas, avoir un effet bénéfique pour la santé mentale de ses patientes, mais pour nous lecteurs et pour vous, j'imagine aussi écrivain, Hubert Adal, un labyrinthe, c'est le début du rêve, c'est le début du mystère, c'est une formidable matrice à imaginaire.
Absolument. Mais notre docteur Riwald est un, un, un passionné du labyrinthe. Pour lui, l'esprit humain, c'est d'abord un labyrinthe. Et il pense qu'il n'y a pas de folie statique, qu'on peut toujours trouver un chemin pour sortir quelqu'un qui est dans un blocage mortifère. Et c'est ainsi qu'il va inventer, imaginer de lancer comme ça certains de ces malades dans ce lieu à ses risques et périls. Parce que ce lieu, il l'a conçu avec son esprit tordu. Et il a conçu ce lieu un petit peu comme ça, ce lieu et l'espace même et la représentation même et l'incarnation même de son espace mental et de sa perversion.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Hubert Haddad pour son nouveau roman La Sirène disait aux éditions Zulma. Et ce jardin labyrinthe, le docteur Riewald l'a imaginé, on l'apprend assez vite, à partir d'un morceau de musique. Le petit labyrinthe organique que l'on a attribué à Jean-Sébastien Bach, harmonique. Ou à son contemporain. Le petit labyrinthe harmonique. Oui. Absolument, vous avez raison de me corriger, c'est important.
Mais il y a une dimension organique.
Voilà aussi. Mais voilà, le petit labyrinthe harmonique qu'on a donc attribué à Jean-Sébastien Bach ou à son contemporain David Einhorn. Mm-hmm. On écoute, on en parle juste après. Et il y a, Hubert Haddad, plusieurs références dans votre livre à ce petit labyrinthe harmonique, métaphore musicale, au labyrinthe des jardins baroques. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, quand vous êtes intéressé à cette œuvre, quand vous l'avez écoutée, j'imagine, réécoutée?
Ce qui est fascinant, c'est comment les musiciens, les compositeurs, eh bien, peuvent penser la musique de manière quasi en mathématicien et en philosophe. Et y voir se confronter soudain dans leur œuvre à des apories, c'est-à-dire à des cul-de-sac de rationnels. Et cependant... Le professeur Riewald, qui est un peu musicien, mais en fait c'est surtout un mélomane, c'est ça qui l'intéresse, c'est cette aporie, et il veut transposer. On est dans l'analogie universelle là, pour le coup. Il veut transposer dans l'espace ce morceau de musique justement pour ces pour ces apories, ces cul-de-sac, ces lieux, ces impossibilités dans lesquelles il va engouffrer ses patients de manière à ce qu'ils soient effectivement perdus d'âme, perdus de tout près au bord de la tragédie, de la mort. Et pensant que à ce moment-là, eh bien, tout d'un coup, cette musique-là prendrait tout son sens et les investirait, alors qu'ils sont dans un espace, qui est une transposition de ce morceau
oui,
musical.
C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est savoir se perdre pour mieux se retrouver.
Pour mieux, mais au bout de la panique, au bout de la terreur absolue, et évidemment, c'est joué avec le feu, avec mais il y a Malgorn, lui, il est sourd. Il est sourd. C'est le contraire du Lys, d'une certaine manière. Il est sourd et il se promène. Ce labyrinthe. Dans ce labyrinthe, il n'a rien à craindre lui-même. Et il va grandir, on ne sait pas quoi faire de lui. Et il va devenir l'arboriste. C'est lui qui va tailler les haies. Parce que c'est cette espèce d'œuvre végétale on peut pas franchir ces arbres, tous ces arbustes sont depuis un siècle ce sont des vrais murs et avec des coupoles de feuilles de branches lorsqu'on y entre on ne sait pas comment en sortir.
Nous sommes à la page 69 de votre livre.
Malgorn s'élance à perdre haleine par les sentes bordées d'ajoncs. Il ne prête guère attention aux zones de recul de la falaise à hauteur des descenderies et poursuit sa course le long des sentiers côtiers. La lande abrasée par les intempéries reprend sève avec les beaux jours. Sur l'épais tapis des mousses crevés de terriers de lapins, au milieu de la bruyère cendrée et des longs épis violets des molinis, les genêts, azalées, calunes et autres ligneux nains dressent leurs dards fleuris. Cette douce brusquerie des couleurs est-elle pareille à ce qu'on dit du chant varié des oiseaux? Il envoie, rasant les marnes ou s'égosillant très haut, par-dessus les calmes étendues vallonnées, que la muraille d'effondrement rompt abruptement et qui se déroule et disparaît comme une draperie de pierre au fond des bleuités. En regard des pâtis et des friches où vaquent les troupes éparses d'ovins, cette trouée d'abîmes mettant à nu les millénaires suggère confusément, à une échelle inconnue, l'imminence de la destruction. Sans hâte, une fois gagnée la route littorale et frissonnant d'une joie secrète, Malgorn ôte sa veste de bûcheron. Comme pénétré de résonances et d'échos indécidables, il reçoit de plein fouet l'éblouissement du jour et la puissante haleine du large. Cette mouvance ressentie à fleur d'épiderme, toute cette fraîcheur et ce frémissement alentour l'enivre d'un vif sentiment de liberté, comme s'il devait se perdre dans l'enlacement illimité des éléments, lui-même pareil au vol épanoui des mouettes au gré des vents, et, pure laitance là-bas, aux coruscantes déchirures des vagues dans l'air saturé de clarté.
Hubert Haddad, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous polissez vos phrases? Parce qu'elles sont limpides, elles sont cristallines, elles coulent comme une eau d'une pureté absolument incroyable. Il n'y a pas un mot à retrancher, il n'y a pas un mot à ajouter. Chaque mot apporte presque l'air de rien, sa pierre à l'édifice que vous construisez. Est-ce qu'un livre, c'est comme écrire une partition?
C'est comme ça que je travaille, oui. Je ne peux pas écrire comme ça, c'est-à-dire je ne peux pas tout d'un coup me dire bon ben voilà je vais et il faut que je me mette dans un état particulier et qu'il y ait une tension profonde, une grande tension pour que tout musicalement s'enchaîne, concorde, résonne. Je pense que je travaille un peu comme oui, comme une partition musicale.
Donc vous êtes un écrivain compositeur.
J'aurais tant aimé être un compositeur.
Mais vous êtes musicien Vous-même?
Non, non, justement. Mais j'aurais tant aimé, parce que je vis tellement dans la musique. Il y a des romans qui sont complètement... Mais mon premier roman, c'était il y a bien longtemps, Gustave Mahler et Bruckner n'étaient pas encore très célébrés en France. Un rêve de glace. Et je l'ai écrit porté par la musique de Mahler et de Bruckner.
Et la musique de la langue est un élément capital dans la façon dont vous en arrivez à créer ce roman.
Oui, parce que là, je n'écoutais pas de musique. C'était moi.
Vous travaillez dans le silence, comme Malgorn.
Là, j'étais dans le. Il fallait que je sois Malgorn d'une certaine manière. Il fallait que je sois Malgorn. Vous savez, un sourd ne rêve que musique. Et il est là. Muet parce que c'est l'époque. Je ne sais pas d'ailleurs à quelle époque ce roman. C'est aujourd'hui. C'est il y a.
Ah ben on va y venir ans. Parce que là aussi on peut se perdre. Ça dépend des moments. Mais pour rester justement sur la métaphore musicale, Hubert Haddad, comment est-ce qu'on parvient à l'harmonie?
L'harmonie, c'est le rêve de chaque artiste, atteindre à l'harmonie, même dans le déséquilibre. Parce que, évidemment, comme disait ce cher Héraclite, qu'une symétrie cachée est bien plus belle qu'une symétrie visible, tangible. L'harmonie, c'est pas la symétrie. La symétrie, c'est le sommeil. La symétrie, c'est la mathématique. Non, c'est la mathématique pour le débutant. mais c'est ce qui, en art, il a fallu la dissymétrie pour s'échapper du symbolisme, pour s'échapper de l'académisme, et la symétrie nous remonte à, évidemment, à la Renaissance, à Raphaël, et dans un roman, c'est pareil. Dans un roman, il faut toujours essayer. C'est comme si on est dans une embarcation, en pleine tempête, et il faut pas verser.
Ni à tribord, ni à bâbord.
Mais ce mouvement-là, à la fin, ça devient une mélodie, ça devient une musique, ça devient une symphonie.
Alors justement, dans une symphonie, il y a des lignes. Symphonique. Oui. Et là, il y a deux lignes, en fait, deux lignes symphoniques qui s'unissent à la fin dans une ultime création. Vous l'évoquiez tout à l'heure, mais on ne va pas évidemment tout raconter. La première ligne symphonique, on l'a déjà évoquée, c'est celle de Malgorn. Et la seconde, c'est celle de Perdre.
Perdre.
Alors, P-E-I-R-D-R-E.
Au début, j'arrivais pas à le dire. Mais
c'est difficile à la radio. Voilà. Alors, vous redites-le.
Perdre.
Voilà. C'est une jeune fille. Et donc, elle est de l'autre côté de la mer. Mmh. Elle habite le Bec de l'Aigle, un ancien sémaphore réaménagé en habitation. Et elle guette l'horizon. Nous sommes à la page 98.
La tour éteinte de l'île de l'Estrande, qu'une simple balise signalait à la navigation, allait peu à peu s'effacer, avant que le phare encore en activité du côté du port reparte à balayer l'îlot, bientôt relayé à main gauche par un puissant feu de pleine mer. Cette alternance dans l'obscurité montante calmait son anxiété d'elle ne savait quel diadème d'orage. En bas de la colline, dans le repli du littoral, les lumières de l'agglomération lui étaient bien connues, celles alignées des 12 réverbères de la rue principale et quelques autres, éparses, aux fenêtres des rares maisons encore habitées. La dernière à l'écart, seule demeure parmi les immenses hangars déserts de l'impasse de l'océan, clignotait à son intention dans le vent bruineux. Sans doute couchée derrière ses vitres, la nuque ployée pour lire, une fille éperdument radieuse d'à peu près son âge y rêvait au même secret. L'ami, seul ami qui, par un accord tacite, ne fermait en aucun cas les volets de sa chambre et semblait se confondre avec cette basse étoile du soir. Miranella ne dormait jamais. La joue contre la lampe, peut-être relisait-elle, découvert l'avant-veille dans le désordre de la bibliothèque, le récit d'un de ces jeunes auteurs oubliés auxquels il n'aura manqué qu'un peu de temps à vivre. L'histoire du mousse naufragé sans œuvre qui, parvenu à se glisser à bord d'un vaisseau fantôme, se hasarde à en prendre les commandes et, après mille nuits d'errance, aborde l'île dévoreuse où règne Salamandra Salamandra, idole d'ébène que la pleine lune anime au grand péril des égarés. Souvent, au prétexte de lui emprunter un livre ou de lui dérober un baiser, Miranella aima grimper la route de la colline sur son vieux vélo tout-terrain. Était-ce hier encore ?
Les pères pensent souvent à cette Miranella qui, elle aussi, est un personnage très étrange, un peu éthéré, un peu diaphane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Miranella, Hubert Haddad ?
Miranella, est-elle, existe-t-elle ?
Ah ben voilà.
Est-elle vivante ?
Oui.
Elle a existé. Mais elle existe certes pour perdre, que c'est sa meilleure amie, sa seule amie. Il est probable qu'elle ait fait un pacte plus jeune, comme il arrive. Et surtout quand on se retrouve sur la falaise, très haut, face à l'océan, en se tenant la main. Et perdre, et depuis ses fenêtres, elle regarde le lointain et elle interroge l'océan. Elle a perdu, elle a beaucoup perdu sa mère, un frère.
Et elle pense à ses morts en permanence. On ne sait pas si elle pense ou si elle en rêve d'ailleurs. On ne sait jamais si on est avec ce personnage dans la réalité ou dans le rêve.
Mais cependant, il y a au fond, au bout de l'océan, debout, comme disait Valérie, et il y a parfois, on entend la sirène d'un énorme bateau, d'un tanker, d'un super tanker. On entend la sirène et la corne de brume. Et elle sait que c'est le capitaine Owen. Elle sait que c'est son père, qui n'a jamais voulu revenir.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Hubert Haddad pour son roman La sirène disait aux éditions Zulma, La corne de brume, qu'on vient d'entendre, comme celle donc que fait actionner ce personnage qui arrive assez tard dans le roman, le capitaine Owen, qui commande un navire qui s'appelle l'Oceanic Captain One, un navire qui va embarquer un passager clandestin, qui va tout de suite donner une dimension très différente à votre récit, une dimension très très contemporaine aussi. Elle est très troublante, l'arrivée de ce personnage, Hubert Haddad, parce que on se croyait dans un conte, on se croirait dans un rêve, et là, soudain, il y a une sorte d'irruption de la réalité la plus contemporaine dans votre récit. Pourquoi aviez-vous besoin de ce personnage ?
J'avais besoin de ce personnage, justement, pour ne pas réduire à le mouelt les différents protagonistes, parce que le personnage principal, c'est l'océan. C'est l'océan est là avec le capitaine Owen, le commandant Owen, qui revient de l'Afrique, qui revient du Golfe, qui revient de cet endroit terrible dont je parle, où on extrait le sang de la terre, il va introduire la dimension du monde, tout simplement. Les contes, ce qu'on imagine être des contes, non, les contes, c'est simplement qu'est-ce que c'est une légende et un conte, c'est être dans l'éternité de son blocage, de son rêve, d'un songe, et avec lui, ce qui est advenu, c'est les tragédies qu'on a pu appréhender, on découvre les origines. Et puis, il y a la palpitation des éléments qui reprend le dessus. Et en fait, c'est ces éléments qui portent le roman.
Hubert Haddad, vous êtes né à Tunis et il y a 10 ans, jour pour jour, le 14 janvier 2001, on était en plein printemps de Tunis. Comment est-ce que vous avez vécu cet événement-là, marqué par la chute et par la fuite du président Ben Ali?
Je suis retourné de temps en temps en Tunisie, et j'ai eu beaucoup d'espérance, avec surtout en tant que berbère, que juif berbère, Pour moi, j'aurais tellement rêvé. Ma famille vient était très plus pauvre que pauvre. Ma famille vient de ce qu'on appelle de la Hara, c'est le quartier juif de la Médina de Tunis. C'était les plus pauvres des pauvres, mais ils sont là depuis l'éternité. Ils étaient là depuis l'éternité. On ne peut pas dater. Ce ne sont pas ce qu'on appelle les séfarades venus d'Espagne. Non, ils étaient là depuis toujours. Et c'est vrai que j'ai gardé au cœur, c'est une profonde nostalgie. Je suis intervenu, il y a même un journal, un célèbre allemand qui m'a demandé de donner à plusieurs reprises, de suivre les événements.
Vous aviez beaucoup d'espérances, disiez-vous. Est-ce que ces espérances ont été déçues?
Non, elle n'est pas déçue, mais maintenant, on est dans une sorte de statu quo, d'attente, comme de même en Algérie. En Algérie,
on est dans l'entre-deux, là aussi, finalement.
Il y a un démon qui est venu interrompre le cours des choses vers la libération, mais cependant, probablement, ça participe de la revue Apulée, cette revue qu'on a fondée, cette revue qui rassemble 100 contributeurs, des Algériens, des Tunisiens, beaucoup, le Maghreb est très présent dans cet esprit de délivrance, de liberté, et surtout, surtout ne pas tomber dans ce qu'on vit actuellement. Et c'est un passage. C'est un passage qui est probablement fort de renouveau.
Mais les bases de la démocratie, les bases de ce renouveau, elles sont là pour nous.
Bien entendu, elles sont là. C'est inévitable que les femmes, en Tunisie, les femmes, lorsque les femmes partout au Maghreb auront compris qu'elles ont entre les mains le pouvoir, c'est elles qui ont le pouvoir. C'est tout simplement la possibilité de dire non, on va faire les choses autrement.
Mais le Maghreb n'a pas à choisir entre l'islamisme et la dictature.
L'islamisme, ce sont des hommes qui, ce sont une espèce viriloïde un petit peu coincée qui terrorise. Mais ces gens-là ils vont avoir des enfants. Les enfants vont prendre leur distance. Il faut que partout, les poètes, les écrivains, les artistes, les hommes, mais les femmes surtout, les femmes ont en main l'avenir de tous ces pays qui sont malmenés par la peur.
Acceptons-en l'augure. Merci beaucoup, Hubert Haddad, d'être passé par le studio de VMDN. La sirène disait, votre nouveau roman aux éditions Zulma, donc un livre que vous allez pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question du jour sur la page Facebook de l'émission. De quelle infirmité souffre le personnage de Malgorn? On en a parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Elsa Olaizola attend vos réponses. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec une jeune primo-romancière. Elle s'appelle Shan Haddad. Rien à voir avec vous ?
Haddad, c'est le dieu du feu, le dieu de l'orage. Donc ça remonte à la Mésopotamie.
Voilà, Shan Haddad, donc primo-romancière qui publie un roman magnifique intitulé Tony tout court aux éditions POL. On en parlera avec elle demain et vous m'en direz des nouvelles.